le magazine des Nations Unies.
Martin Kobler et Saïd Dini, inquiets par rapport au processus électoral et à la situation sécuritaire en RDC. Les deux envoyés spéciaux ont exprimé leurs sentiments devant le Conseil de sécurité à New York. C'était le mardi dernier. Après les OMD, la RDC met les caps sous les ODD. Le pays n'a certes pas atteint les objectifs du millénaire pour le développement, mais a au moins réalisé de progrès encourageants à capitaliser pour l'échéance des objectifs du développement durable. Actualité de la semaine à suivre également dans la rubrique décryptage avec un expert du PNUD. Enfin, la campagne porte à porte en matière d'inscription scolaire se porte bien dans l'ex-province du Bandundu. Un peu plus de 123 000 enfants vivant en dehors de l'école ont été récupérés en 2014. Près de 31 000 identificateurs volontaires largués dans 800 000 ménages en 2015. Grâce aux efforts du gouvernement, appuyé par l'UNICEF, le Bandundu réalise 82% de taux de fréquentation scolaire. Nous évoquerons toutes ces performances avec un expert de l'UNICEF dans cette édition.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Commençons d'abord par cette nouvelle. Le successeur de Martin Kobler est connu. Il s'agit du Nigérien Mamman Sidiku. Il a été nommé à la tête de la MONUSCO le jeudi 8 octobre dernier par le secrétaire général de l'ONU. Mamman Sidiku occupait jusqu'au mois d'octobre 2015 la fonction de représentant spécial du président de l'Union africaine pour la Somalie et chef de la mission de l'Union africaine en Somalie. Et restons toujours dans le même sujet, je ne peux pas dire avec certitude si les progrès réalisés sont durables ou si les spectres de la violence peuvent réapparaître et annuler ce qui a été réalisé jusqu'à maintenant. Déclaration de Martin Kobler devant le Conseil de sécurité. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC et son homologue en charge de la région des Grands Lacs ont exprimé leur inquiétude concernant les tensions politiques autour du processus électoral dans ce pays. Emmanuel Mbanda nous en dit plus.
Les tensions politiques sont élevées en République démocratique du Congo avant les élections de 2016. Déclaration du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC au Conseil de sécurité. Selon Martin Kobler, ces tensions auront un impact sur la situation sécuritaire. Toujours selon lui, le déroulement d'élections crédibles et pacifiques en 2016 au Congo est un message clair au monde, celui de la capacité du pays à respecter la constitution, procéder à une transition pacifique du pouvoir et consolider la paix. L'inquiétude de Martin Kobler porte aussi sur la recrudescence des violations des droits de l'homme liées au processus électoral. Un accent particulier est mis sur les violations de la liberté des réunions. Il appelle le gouvernement congolais à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir des élections législatives et présidentielles transparentes, crédibles et inclusives prévues en novembre 2016. De son côté, Saïd Djinit est inquiet de la persistance des groupes armés dans l'Est congolais, également des actes de violence de ces groupes sur les populations congolaises. Selon le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, ces forces négatives perpétuent des situations de tension et entretiennent un climat de méfiance dans la région. Il appelle à une reprise des opérations entre les FRDC et la MONUSCO contre les groupes armés.
Autre actualité, c'est le lancement mardi dernier à Kinshasa par le Premier ministre Matata Ponyo du rapport bilan des objectifs du millénaire pour le développement OMD 2000-2015. D'après ces rapports bilan, les principaux indicateurs des OMD ont évolué d'une façon satisfaisante au regard du contexte traversé par la RDC sur la période. Les détails avec Honoré Misenga-Kalala.
La salle de conférence du nouveau bâtiment de l'hôtel du gouvernement affiche complet ce mardi 7 octobre 2015. Opérateurs économiques, parlementaires, ministres, représentants des agences onusiennes et autres personnalités sont venus suivre le rapport bilan du parcours réalisé par la RDC dans le cadre des objectifs du millénaire pour le développement. Tous les messages du jour sont unanimes. La RDC n'a certes pas atteint les objectifs tels qu'ils étaient fixés, mais les efforts réalisés sont encourageants au regard des défis qui étaient à relever. Tout porte à l'optimisme, comme l'indique le Premier ministre.
Tout en reconnaissant que la République démocratique du Congo a encore du chemin à parcourir pour devenir un pays émergent, pour devenir un pays développé, je pense qu'il jaillit désormais une lueur d'espoir et que celle-ci est suffisante pour que l'on croie au lendemain meilleur dans notre pays.
Mamadou Diallo, le coordonnateur du système onusien en RDC et représentant résident du PNUD, va plus loin dans cet optimisme.
Dans ce Congo, en progrès, il y a des chiffres qui font pâlir d'envie la plupart de vos voisins et la plupart des pays du monde. C'est un taux de croissance qui frôle les deux chiffres. Et ce n'est pas un taux de croissance temporaire. Il se maintient au cours des années et il a permis au Congo de s'inscrire durablement dans la trajectoire d'une croissance forte et stable qui feront de ce pays, à l'horizon 2030 ou 2035, un pays émergent. Et en tant qu'Africains, nous devons tous être fiers parce qu'un Congo stable, en paix, prospère, est un Congo qui est bien pour nous tous.
De son côté, un expert du PNUD, membre du comité de pilotage du rapport OMD 2000-2015, explique ici ce que le monde attend des objectifs pour le développement durable, ODD en sigle.
On peut dire simplement que les objectifs de développement durable visent un monde plus équitable et plus durable pour tous les habitants de la planète. Pour y arriver, il s'agit ici de mettre en œuvre un ensemble combiné de grandes mesures qui constitueraient à lutter contre les inégalités, à mettre fin à l'extrême pauvreté et à la faim dans le monde et à s'attaquer au changement climatique. Cette vision du monde équitable, durable pour tous les habitants de la planète revient à transformer les vies tout en préservant la planète.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Revenons à l'actualité concernant les objectifs du millénaire pour le développement OMD et les objectifs pour le développement durable ODD. Comment comprendre ces deux programmes des Nations Unies? Nous recevons un des experts membres du comité de rédaction du rapport bilan des OMD lancé officiellement, je le rappelle, mardi dernier par le Premier ministre. Cet expert, c'est Jean-Paul Boketchou-Bofili, économiste national au programme des Nations Unies pour le développement PNUD-RDC. Il s'entretient une fois encore avec Honoré Missenga Kala.
Jean-Paul Boketchou, bonjour.
Bonjour.
Vous avez fait partie du comité de rédaction du rapport OMD 2015 pour la RDC, rapport qui a été officiellement rendu public lors d'une cérémonie présidée par le Premier ministre. Qu'entendez-vous par OMD?
OMD, ça veut dire les objectifs du millénaire pour le développement. Il s'agit des objectifs qui ont été adoptés en l'an 2000 par 189 pays pour essayer d'avancer la question du développement dans le monde. Le principal objectif était surtout de réduire de moitié le nombre de pauvres dans le monde tout en améliorant leurs conditions de vie sociale à travers les différentes dimensions, notamment la santé, l'éducation, l'environnement, le cadre de vie.
Alors, quel est le bilan de ces objectifs du millénaire pour le développement en RDC, puisqu'on est arrivé à la fin de l'échéance?
La RDC, à la fin de l'échéance, après 15 ans de mise en œuvre des OMD, c'est-à-dire depuis 2000 jusqu'à 2015, le bilan est tel qu'aucun objectif n'a été atteint. Toutefois, on a noté des progrès substantiels au niveau des indicateurs des OMD, comparativement à la situation qui prévalait en 2000 lors de leur adoption. À titre d'exemple, au niveau du premier objectif qui visait de réduire la pauvreté, on est parti de 80% des pauvres en 1990 à 63% en 2012. Ça, c'est la dernière statistique qui existe. Donc, soit une réduction à peu près de 16% des pauvres en RDC. C'est vrai, on peut dire que 16%, c'est peu par rapport à l'objectif qu'on visait de 40%, mais est-il que les contextes du pays, notamment les conflits récurrents armés, les différents chocs externes, notamment la crise alimentaire et la crise financière mondiale de 2008, et aussi les pandémies sanitaires, notamment d'Ebola qu'on a connu récemment, mais laissez-moi aussi rappeler que de 90 à 2015, on a connu à peu près 5 épisodes de pandémie d'Ebola en RDC. Tous ces faits, tous ces chocs n'ont pas permis la réalisation satisfaisante des OMD comme on pouvait s'attendre.
La page des OMD tournée, on va s'attaquer maintenant à celle des ODD, c'est-à-dire les objectifs pour le développement durable pour l'échéance 2030. Objectif du millénaire pour le développement, objectif pour le développement durable. Qu'est-ce qui fait en fait la différence entre les deux programmes?
Au fait, la première différence entre les deux vient que les OMD couvraient la période de 2000 à 2015. Et comme la communauté internationale, c'est-à-dire tous les États membres, s'étaient assignés l'objectif, arrivé à 2015, ils ont renouvelé leur engagement de poursuivre les objectifs. Et ils ne pouvaient pas poursuivre dans le même cadre des objectifs du millénaire pour le développement. Et les ODD font partie d'une nouvelle agenda de développement qui va couvrir la période 2016 à 2030, c'est-à-dire les 15 prochaines années. Ça, c'est une première différence en termes d'horizon. Deuxième, c'est que l'agenda de développement post-2015, où l'on trouve les objectifs de développement durable, c'est-à-dire les ODD, lui, il s'avère être plus ambitieux que les OMD. C'est-à-dire, à partir des succès qu'on a pu enregistrer dans la réduction de la pauvreté à travers les OMD, certains pays comme la Chine ont pu réduire plus que la moitié le nombre de pauvres. Et vous savez, la Chine, ce sont des milliards, donc s'il réduit plus de la moitié, donc c'est un nombre suffisamment élevé de pauvres qui sont sortis de l'état de pauvreté. Donc, à partir de ces succès-là, tous les pays ont renouvelé un engagement, cette fois-ci plus ambitieux, qui se limite pas seulement au niveau social, comme étaient beaucoup plus les OMD. Troisième élément de différence, les ODD prennent trois dimensions. Donc, ils prennent à la fois la dimension sociale, économique et puis environnementale. Comme vous savez, l'homme c'est un tout et on ne se limite pas seulement à améliorer les aspects sociaux. Le facteur politique, la qualité des institutions peuvent avoir une influence sur le développement social. Et là, cette fois-ci, la grande différence c'est une conception plus globale dans un ensemble cohérent des objectifs qui vont du social, de l'économique et de l'environnement pour essayer de changer.
C'est pourquoi on a 17 objectifs pour les ODD contre 8 pour les OMD.
Exactement. C'est un programme plus ambitieux que les OMD. C'est pourquoi, avec son ambition, il a 17 objectifs contre 8 qu'avaient les OMD, parce qu'il veut ramasser un peu tous les différents éléments. Il compte à peu près 169 cibles à suivre, contre environ 40 et 50 qu'avaient les OMD, et à peu près 338 indicateurs à ce jour. Mais il ne faut pas seulement qu'on regarde beaucoup plus la complexité du programme, mais plutôt vers l'ambition du programme de changer, parce que cette fois-ci, ce n'est pas réduire la pauvreté de moitié, mais c'est plutôt aller vers zéro pauvreté, donc zéro pauvre. Et ça, c'est plus ambitieux et il fallait regarder tous les aspects qui pourraient contribuer à l'amélioration de cette pauvreté.
Entre autres, le développement de l'énergie durable.
Oui, ces objectifs sont normalement dans quatre groupes. On a des objectifs qui reviennent des OMD, c'est-à-dire dans les efforts doivent être poursuivis. Il y a des objectifs qui sont relatifs à l'eau, à l'assainissement et à l'énergie. C'est-à-dire ces objectifs-là, l'objectif 6 et 7 vont se focaliser dans l'amélioration des conditions par rapport à l'eau, à l'assainissement et à l'énergie. On a les objectifs 8 à 12 qui vont essayer de voir question de gestion durable des territoires, c'est-à-dire les aspects environnementaux. Et on a les objectifs 13 à 17 qui vont regarder la question de la gouvernance et la qualité des institutions, parce que ces éléments sont très très importants dans la réduction de la pauvreté.
Jean-Paul, quelle leçon la RDC peut tirer du bilan des OMD au profit des ODD?
Il y en a plusieurs leçons que la RDC peut tirer en termes du bilan des OMD. La première leçon, le contexte de mise en œuvre des OMD en RDC lors de la signature du pacte du millénaire en 2000, c'était un contexte chaotique. La RDC est partie avec des pesanteurs. Le pays ne disposait même pas un cadre de planification. Mais grâce à la normalisation en 2001 et à la dynamique des OMD, il y a tout un cadre programmatique qui a été mis en place, connu le plus souvent au nom des stratégies de croissance et de réduction de la pauvreté. Dans ce cadre, le pays a élaboré trois grands documents de planification, le DSERP intérimaire, le DSERP 1 et le DSERP 2. Et dans cette dynamique, il y a eu des programmes à travers la matérialisation, la réalisation de ce cadre-là avec l'appui du gouvernement et des partenaires. Il y a eu le renforcement des capacités en termes de planification, de suivi du développement et tout ça. Et aujourd'hui, la RDC est debout et il a tous ces éléments, tous ces acquis pour y aller.
Tout cela, c'est à l'actif du gouvernement.
À l'actif du gouvernement et de tous les partenaires au développement qui l'appuie, notamment les partenaires techniques et financiers, la société civile, les secteurs privés, les universités, et pourquoi ne pas aussi citer la population, parce qu'un plan, une vision, l'adhésion de la population, elle est très importante.
Jean-Paul Boketchou, merci.
Merci beaucoup, Honoré.
à Goma cette fois-ci, où le PNUD a organisé du 7 au 8 octobre 2015 un atelier de monitoring judiciaire. Une cinquantaine de représentants du monde judiciaire et des universités d'Ituri et de Deux Kivu y ont participé. Les sujets du monitoring a porté sur le traitement des dossiers de violences sexuelles basées sur le genre. Depuis 2010, le PNUD a investi plus de 500 000 dollars américains pour mettre en œuvre un monitoring judiciaire des cas de violences sexuelles et basées sur le genre. Enfin, plus de 2000 nouvelles personnes, en majorité des femmes et des enfants, sont entrées en une semaine sur le terrain congolais en provenance de la République centrafricaine. Selon un communiqué conjoint ACR-PAM, ces personnes en provenance particulièrement des Bangui, la capitale de la RCA, sont à Zongo et la plupart se seraient installées dans le camp des réfugiés de Molé. Le ACR rappelle que depuis le début de la crise centrafricaine en mars 2013, plus de 65 000 réfugiés centrafricains ont été installés dans quatre camps, Voyabou, Molé, Inke et Bili au nord et au sud ou Bangui, pendant que d'autres vivent dans des familles d'accueil.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Campagne d'inscription des enfants de 6 à 7 ans vivant en dehors de l'école. L'ex-province du Bandundu a réalisé des performances en récupérant 123 552 élèves en 2014. En 2015, près de 31 000 identificateurs bénévoles ont été largués dans 800 000 ménages. Objectif, faire du porte-à-porte pour récupérer davantage d'enfants et les maintenir à l'école. Pari que le gouvernement est en passe de gagner avec l'appui de l'UNICEF. Jean-Paul Nico Luketo, chargé de l'éducation de l'UNICEF Bandundu, est notre invité. Il évoque les différentes facettes de la stratégie porte-à-porte et ses implications dans cette interview réalisée avec Jean-Pierre Elali Coco. Suivez.
Jean-Paul Nico Luketo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé de l'éducation de l'UNICEF Bandundu et nous allons nous entretenir avec vous autour de la campagne d'inscription des enfants de 6 à 7 ans à l'école primaire, ici dans votre province de Bandundu, donc je dirais de l'ex-province. Première question, mais pourquoi la stratégie porte-à-porte par rapport aux autres stratégies, par exemple la sensibilisation au niveau des médias?
Pour répondre à votre question, il faut circonscrire d'abord le cadre. Il y a eu une étude en 2012 sur les enfants et adolescents en dehors de l'école. Selon cette étude-là, au Bandundu, nous avons près de 200 000 enfants de 6-7 ans qui ne vont pas à l'école, qui sont en dehors de l'école. Et parce que notre campagne concerne ceux-là, au niveau national, c'est 2 millions, et l'étude avait même révélé certaines questions, où sont-ils, qui sont-ils, cette étude qui nous a donné les éléments de réponse, démontrer l'importance d'avoir une stratégie propre à cette campagne pour aller chercher ces enfants-là. Pourquoi le porte-à-porte et non pas la sensibilisation dans la radio? Tout va ensemble. Il y a une sensibilisation de masse à la radio, mais nous ne savons pas mesurer les résultats de cette sensibilisation à la radio, à la télévision, de micro-planification qu'on diffuse. La stratégie porte-à-porte a l'avantage d'utiliser des outils qui nous permettent de mesurer les résultats. Vous avez une fiche d'identification que l'identificateur utilise de porte-à-porte qui permet de savoir dans telle maison il y a combien d'enfants de 6-7 ans et si ces enfants vont à l'école ou ne le vont pas. Nous sommes sur une approche basée sur le résultat.
Voilà, c'est une stratégie qui a été mise en œuvre depuis quelques années, mais parlons un peu du bilan de cette stratégie de porte-à-porte, comme vous l'avez dit, en 2014. Quels sont les résultats auxquels vous êtes parvenus en 2014 en ce qui concerne bien sûr l'inscription des enfants qui vivent en dehors de l'école?
Pour la province du Grand Bandundu, nous avons eu 123 552 enfants récupérés selon le rapport officiel transmis par le ministre provincial de l'éducation au Bandundu. Et ce rapport a été envoyé par le gouverneur au niveau national. C'est le résultat du porte-à-porte. étape. Et dans l'ensemble, l'année passée, nous avons inscrit avant le porte-à-porte 435 207 enfants. Quand vous faites la sommation, nous étions à 558 759 enfants en première année primaire au niveau de notre province du Bandundu.
Donc il y a une progression.
Progression, oui. Parce que, vous voyez, des 400, nous avons pu récupérer 123 000 enfants. C'est un grand succès. Je peux déjà anticiper en te disant que nous avons mis en place des mécanismes de suivi de ces enfants jusqu'à la fin de l'année. On a les résultats. Nous avons maintenu sur les 123 000 enfants 70% d'enfants. Et les fiches sont là, les résultats sont là. On peut le vérifier dans les... Seulement, il faut dire que sur les 70% des enfants récupérés et maintenus, les filles n'ont représenté que 63%. Il y a encore des problèmes là.
Donc, tout ce que vous venez de dire, les progrès que vous avez réalisés, ont un impact sur le taux de fréquentation à l'école en 2014.
L'EDES, donc l'enquête de santé et de démographie, qui place le Bandundu à 82% du taux de fréquentation.
C'est le plus grand taux au niveau national.
Je n'ai plus l'étude à main, mais je pense que nous sommes très bien placés, même par rapport au niveau national.
Oui, on parlait de 2014, maintenant on est en 2015. Au mois d'août, vous avez commencé la planification de la mise en œuvre de la campagne. Est-ce que pourrons avoir une idée sur, avant tout, la planification elle-même, deuxièmement, sur les résultats qu'on peut attendre en 2015?
La campagne porte-à-porte, c'est une très grosse machine. Ça a une grande implication à plusieurs niveaux. C'est comme ça que la préparation a commencé au mois de mai, quand nous avons évalué les résultats à mi-parcours sur le maintien, nous étions déjà en train de rendre compte des erreurs de l'année passée et comment remédier cette année. Et au mois d'août, nous avons organisé des ateliers de micro-planification dans les trois provinces éducationnelles qui constituent le Bandundu, précisément à Bandunduville, à Kikwit et à Kenge. Et ces ateliers regroupaient principaux acteurs de l'éducation. Le grand travail à faire là, c'était d'abord décortiquer la note d'orientation du secrétaire général par rapport à la campagne porte-à-porte. Ensuite, pour être stratégique, il fallait regrouper les écoles en axes et sites. Axes ou sites, 511 pour regrouper les 7698 écoles primaires recensées. Il y a aussi les identificateurs. Ici, ce sont des volontaires qui vont faire le porte-à-porte. 4 par école. Les identificateurs attendus pour cette année, c'est 30 792. Près de 31 000 qui vont se mobiliser à faire le porte-à-porte. Et cela va se faire de la manière stratégique. Déjà, il y a cette cartographie qui permet à ce que chaque identificateur puisse savoir quelle est l'avenue qu'il doit visiter, quelle est sa limite, et ils doivent faire ce travail pendant les 6 jours. Chaque identificateur doit visiter au moins 25 ménages. Pour chaque école, c'est 100 ménages. Prendre le temps avec les ménages, surtout là où ils trouvent un ménage où il y a un enfants non scolarisés.
Tout à l'heure, nous avons parlé de la province de Bandundu qui est quand même bien lotie en ce qui concerne la scolarisation des enfants. Et quels sont les grands défis que vous attendez en 2015?
Le grand défi, c'est le maintien. Nous savons que stratégiquement, la campagne va réussir. Nous allons identifier des enfants. Nous allons réussir à récupérer certains. Mais maintenant, il faut les maintenir pour qu'ils terminent l'année face aux défis, aux difficultés que rencontrent les gestionnaires.
Donc, c'est difficile de donner un nombre en termes de projection, c'est difficile pour l'instant.
D'enfants attendus.
Oui.
Notre espoir, c'est que ce nombre diminue. L'année passée, nous avions eu 123 000. Avec la sensibilisation que nous avons menée l'année passée, avec la grande sensibilisation que nous venons de mener avant les porte-à-porte, nous espérons avoir le moins possible d'enfants.
Nous avons visité quelques écoles avec vous. On est allé même à plus de 45 km à l'extérieur de la ville. Nous avons rencontré certains responsables. Quels sont les difficultés que vous avez perçues vous-même et quelles sont les solutions que vous pouvez proposer dans le cadre de l'inscription des enfants qui vivent en dehors de l'école?
Bon, ce n'est pas à nous de proposer des solutions parce que nous sommes un partenaire. Nous accompagnons le gouvernement. Le gouvernement a mis en place des mécanismes déjà de gestion de ces difficultés, la gestion des classes pléthoriques. Le problème qui découle de la campagne et dont les projections sont déjà là. Quant à l'infrastructure, c'est vrai, il y a un programme ambitieux. J'ai lu la note d'orientation du secrétaire général là-dessus aussi, par rapport à la construction à moindre coût. Et nous avons au Bandundu une grande expérience sur la construction à moindre coût. Par exemple, il y a 2 ans, dans la subdivision de Djouma, avec l'approche communautaire, on a pu agrandir 96 salles de classe.
Vous avez dit que l'UNICEF est un grand partenaire du gouvernement. Quelle est l'implication de l'UNICEF en tant que partenaire? Et aussi, on parle souvent de la Fondation Qatar et même de Caritas dans cette œuvre que vous menez ici dans la province de Bandundu et en particulier et dans toute la République démocratique du Congo en général.
L'UNICEF accompagne le gouvernement. Le programme que nous mettons en œuvre, c'est un programme du gouvernement. Donc nous alignons à ce programme-là, et qui est d'ailleurs défini dans le plan intérimaire de l'éducation, et qui répond à la question d'accès, de la qualité et de la gouvernance du système éducatif, pour apporter tant soit peu notre appui, tant technique, mais aussi matériel et financier. Vous avez évoqué le fonds Qatar, c'est vrai. L'UNICEF et la Fondation Qatar a eu à signer des accords où ils ont mobilisé des fonds. Et ces fonds-là vont servir nécessairement pour le maintien des enfants les plus vulnérables. Vont vraiment bénéficier de cet appui-là et pour mettre en œuvre Caritas entre en action comme un partenaire aussi de mise en œuvre.
Et Jean-Paul Nicole Keto, Radio Capi vous remercie de votre disponibilité.
Je vous en prie.
Restons encore dans le Bandundu. Les enseignants des villages les plus éloignés des Kikwit parcourent de longues distances à pied pour toucher leur salaire mensuel au chef-lieu de la nouvelle province du Kwilu. Fatigués, ils expriment leur ras-le-bol et demandent au gouvernement de trouver une solution. Jean-Pierre Elali Koko, qui a effectué une mission à Kikwit, les a rencontrés sur place. Suivez son reportage.
Vendredi 2 octobre à Kikwit 4, la cour d'école bouillonne de monde sous un soleil accablant. Moussete Lemakère, directeur de l'école primaire Mbello, non loin de Dibaya Dibwe, aura parcouru 45 km à pied. Nombreux de ses collègues venus de différents villages ont fait de même, voire plus. Motif, gagner Kikwit pour toucher son salaire mensuel. La Sophie Bank, une banque ambulante, est la seule à desservir la contrée. La paie s'est faite manuellement, d'où la longue attente. Et visiblement, les enseignants sont mécontents d'un tel système de pays.
Nous sommes payés ici à Kikwit. Donc, on laisse nos classes, nos familles. Nous venons faire 2 ou 3 jours ici pour attendre la paix.
Entre-temps, les élèves sont abandonnés à leur triste sort et le retard sur le calendrier scolaire est irréversible. Que préconisent alors les enseignants? Pour les uns, il faut revenir à Caritas. Pour d'autres, une banque de proximité avec plusieurs centres de pays.
Nous demandons au gouvernement de nous mettre une banque sur place ici à Kikwit. Cette banque-là qui est portative. Un jour, on peut nous voler cet argent. On ne sait jamais.
Et pour le maire de la ville de Kikwit, Léonard Moussangou, les enseignants doivent prendre leur mal en patience.
La hiérarchie a été saisie pour que ça s'améliore. D'ici quelques temps, il y aura une amélioration. C'est vrai que c'est un casse-tête.
Les enseignants espèrent qu'un jour, le gouvernement prêtera une oreille attentive à leurs revendications. En attendant, les calvaires continuent et les élèves les laissent pour compte.
Magazine des Nations Unies, questions aux Nations Unies.
Nous vous proposons aujourd'hui la question de notre consoeur Myriam Miragui du quotidien Le Phare. Elle sera suivie de la réponse de Dominique Adjaouinou, chef de l'unité élection au sein de la division affaires politiques de la MONUSCO. Suivez.
Oui, je suis Myriam Miragui du journal Le Phare. Quelles sont de manière explicite, les différentes violations de droits électoraux dont il est question?
Nous travaillons sur plusieurs axes. Les domaines dans lesquels nous observons ces incidents, il y a le débat politique libre et constructif, est-ce qu'il y a ça? La liberté d'opinion et d'expression, l'accès équitable aux médias, y compris aux médias d'État, la liberté d'association, le droit à la liberté et à la sécurité de la personne, des hommes politiques, des acteurs. Est-ce que les acteurs politiques ont la possibilité, la capacité de se mouvoir librement? Est-ce que leur sécurité n'est pas atteinte? Ce qui revient le plus, c'est la liberté d'expression. Nous avons noté dans cette période, disons de janvier à août, une quarantaine d'incidents qui ont été enregistrés. Et cela dénote du rétrécissement de l'espace politique, plus chaque fois que, en tout cas, lorsque nous avançons, comme j'ai dit tout à l'heure, vers la tenue des élections.
Magazine des Nations Unies, portrait du jour.
Je m'appelle Ngoï Kishimba, je suis représentant assistant au Fonds des Nations Unies pour la Population. Fonds des Nations Unies pour la Population que j'ai intégré depuis 2004, marié et père de 4 enfants. Je suis démographe de formation, avec comme background de base statisticien, donc sorti de l'école de statistique et d'économie appliquée d'Abidjan. Bien avant d'intégrer le Fonds des Nations Unies pour la Population, j'ai travaillé comme chercheur à l'Institut de formation et de recherche démographique de Yaoundé de 1993 à 1999. Puis je suis allé en France où j'ai poursuivi mes études. Et après, je travaillais à l'Institut National d'Études Démographiques, l'INED de Paris, avant de rejoindre UNFPA, où je travaille déjà depuis 11 ans. Mes tâches quotidiennes sont essentiellement basées sur mon travail que je fais à UNFPA, qui me prend suffisamment de temps. Mes attributions autres que les tâches managériales où j'appuie la représentante dans les activités de gestion du bureau, de gestion du programme. J'appuie l'Institut National de la Statistique à réaliser le second recensement général de la population et de l'habitat. J'appuie également l'INS en ce qui concerne les opérations de collecte de données d'envergure nationale, telles que l'enquête démographique et de santé qui a eu lieu en 2013, et aussi l'enquête QUIB qui est en cours de préparation à l'INS. Mon temps libre, je le gère essentiellement entre le bureau, ma maison et l'église, puisque on se rend compte qu'il faut aussi avoir une pensée pieuse en Christ, lui qui nous a donné la victoire à travers le sacrifice qu'il a accompli à la croix. Donc, je suis chrétien et je passe la plupart de mon temps entre l'église, la famille et le bureau. S'agissant de mes préférences, bon, elles tournent essentiellement autour des 3 domaines que j'ai mentionnés, le travail, la famille et l'église. Donc, c'est d'abord la musique religieuse, c'est d'abord aller écouter les prédications, c'est aussi soutenir l'œuvre de Christ que les serviteurs de Dieu essayent de faire progresser dans ce pays. Je suis congolais, donc je mange tout ce que nous mangeons au Congo, c'est essentiellement des légumes. Vous voyez que la nourriture congolaise, elle est essentiellement basée sur les légumes, et c'est ça que j'aime aussi manger. Bon, les projets d'avenir après l'UNFPA, ce serait de contribuer au projet de développement dans mon pays, qui est confronté à pas mal de défis. Donc il y a pas mal de choses à faire. J'aimerais bien que mon expérience après les Nations Unies soit mise à profit des programmes, des projets et programmes de développement en République démocratique du Congo.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC, chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
Trois rendez-vous à noter dans vos agendas. 15 octobre, c'est la journée internationale des femmes rurales. 16 octobre, la journée mondiale de l'alimentation. 17 octobre, journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. C'était un réel plaisir de vous présenter ce magazine des Nations Unies. Coordonné par Jean-Pierre Elali Coco, Honoré Mitenga au reportage, André Mongou à la mise en onde et moi c'est Nadine Foulantimba qui vous l'a présenté. Vous pouvez retrouver ces numéros sur le site Radio Kapi, www.radiokapi.net. Rendez-vous le dimanche prochain pour un nouveau numéro. Excellent dimanche à tous.